sans détour avec Élisane Pellerin.
Bonjour, bienvenue à Sans détour. Cette semaine, on reçoit Nevena Shankova, étudiante au doctorat à l'Université de Montréal, pour nous parler des effets de la discrimination sur la santé physique et le vieillissement. On rejoint par la suite Amélie Durand-Lot, directrice générale de l'AQDI. Et on termine l'émission avec Francis Charrier, qui est co-directeur des recherches au Centre de recherche pour l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap pour parler d'insertion et emploi et de IA. Bonne émission. Bonjour, on commence l'émission avec l'étudiante au doctorat en psychologie à l'Université de Montréal, Nevena Shankova. Bonjour Nevena.
Bonjour, bonjour Élisane.
Comment allez-vous?
Ça va très bien, merci. Merci de m'accueillir aujourd'hui.
Merci à vous d'être avec nous. Donc, vous êtes chercheuse au Centre d'études sur le sexe, genre et l'austère et la résilience, qu'on appelle le César. Et vous êtes ici pour nous parler d'une étude que vous venez de publier sur les effets de la discrimination sur la santé physique et le vieillissement de la population.
Oui, exactement.
Pouvez-vous nous parler de la population qui a été étudiée et de la façon dont vous avez fait votre recherche?
Oui, bien, dans le fond, nous, on s'intéressait beaucoup à la population des personnes à diversité sexuelle et de genre. Et donc, on sait que cette population est vraiment plus à risque depuis longtemps de vivre des problèmes de santé mentale, du stress chronique, etc. Mais on s'est vraiment demandé, dans le cadre de cette étude, comment ça se traduit, ce stress-là, dans le corps. Donc, pour ce faire, on a mesuré ce qu'on appelle la charge allostatique. C'est un peu comme un index là, du stress chronique qui s'amasse dans le corps. Et sinon, on a mesuré la charge allostatique à travers nos participants là, qu'on avait séparés dans plusieurs groupes selon l'orientation sexuelle et l'identité de genre.
Et vous avez combien de participants?
Au total, on avait 357 adultes là, qu'on avait recrutés de la région de Montréal.
Quand même! Et au niveau de vos principaux résultats, qu'est-ce que vous avez pu voir au travers de cette étude-là?
Premièrement, ce qu'on a vu, c'est que la discrimination s'inscrit vraiment biologiquement dans le corps. Donc, les personnes qui avaient vécu plus de discrimination dans leur vie avaient des niveaux plus élevés de charge allostatique. Donc ça montre vraiment que la discrimination, c'est pas quelque chose de psychologique ou d'abstrait. Là. C'est vraiment quelque chose de mesurable là, qu'on peut mesurer dans le corps. Et ensuite, ce qu'on voyait, c'est que les profils variaient beaucoup selon les sous-groupes LGBTQ. Donc, notamment, c'est les hommes cisgenres et transgenres qui montraient les plus hauts niveaux de charge allostatique. Et quand on regardait pour l'orientation sexuelle, c'était les hommes gays et bisexuels qui avaient les plus hauts niveaux. Donc, on remarque que vraiment les hommes seraient plus à risque, tandis que les femmes semblaient être moins à risque, là, avaient moins de grandes charges allostatiques.
Et c'est une des premières recherches qui montre vraiment l'impact biologique de la discrimination sur le corps.
Oui, exactement. Dans le fond, historiquement, la plupart des recherches se sont intéressées plutôt aux facteurs psychologiques, faisaient partie des questionnaires. Mais nous, on voulait vraiment ajouter cette composante biologique-là et donc relier les questionnaires psychosociaux à cette dimension biologique-là qui est la charge allostatique.
Et qu'est-ce qui vous a donné un indice comme quoi ça pouvait peut-être s'inscrire biologiquement puis d'ouvrir finalement ce sujet-là puis de demander là, des financements de recherche pour aller voir si c'était bien le cas?
Et mon directeur de recherche, Robert Paul Justin, lui, c'est vraiment sa niche. Dans le fond, ça fait des années qu'il s'intéresse à la charge allostatique et ça a été vraiment un pionnier dans ce domaine-là. Donc lui-même, quand lui-même était au doctorat, au post-doctorat, il faisait des études un peu similaires. Et donc, on a repris un peu la même méthode, mais cette fois-ci avec des plus grands échantillons, avec plus de biomarqueurs.
Et pourquoi diriez-vous que les hommes sont plus à risque? Est-ce que ça a rapport avec la société là, qui Mais les jeunes dans une situation où c'est plus difficile peut-être pour eux de s'exprimer ou plus difficile pour eux peut-être d'aller chercher de l'aide. Est-ce que vous voyez une corrélation avec vos résultats?
Oui, je pense que c'est une hypothèse qui est quand même plausible. T'sais, on sait que pour les femmes, il y a peut-être une plus grande acceptabilité sociale, une plus grande acceptabilité aussi au niveau de la fluidité du genre, de l'orientation sexuelle. Mais je pense que chez les hommes, il y a encore beaucoup de stigmatisation par rapport à ça. On sait aussi que les femmes vont souvent avoir tendance à s'affilier avec leurs amis, à discuter de leurs problèmes, de leur stress. Finalement, ça a sûrement comme effet de réduire le stress au final. Tandis que chez les hommes, ils ont tendance à plus garder ça pour eux, peut-être moins en parler dans leur cercle social. Et donc, c'est sûr que ça peut avoir comme effet d'augmenter le stress. Mais ça reste juste une hypothèse.
Oui,
peut-être
bien
aussi
sûr.
Au niveau biologique, les hommes sont peut-être prédisposés à avoir un plus haut niveau de stress là, biologiquement aussi.
Est-ce que c'est des pistes qui vont être explorées éventuellement?
Oui, c'est ça. Dans les prochaines études, on aimerait s'intéresser spécifiquement au inflammaging, donc le lien avec l'inflammation. Donc vraiment cibler des biomarqueurs qui seraient plus spécifiquement liés à l'inflammation et au vieillissement. Vraiment regarder ça. Puis aussi avoir plus des études longitudinales. Donc là, on a pris des mesures à un seul temps de mesure.
Oui.
Mais on aimerait ça créer une cohorte puis prendre des mesures à répétition là, sur plusieurs temps de mesure, plusieurs années. Et vraiment voir ce que ça donne à ce niveau-là.
Ce que ça montrerait, en fait, c'est qu'effectivement, les hommes seraient prédisposés là, génétiquement ou biologiquement à développer plus de stress.
Oui, ben on va voir si ce que ça dit, mais c'est sûr que c'est une hypothèse, oui.
Okay. Et en quoi ces résultats-là sont importants en termes d'impact sociaux sur la société?
Ben, ce qu'on retient vraiment, c'est que la discrimination, c'est pas quelque chose d'abstrait, là, comme je disais tantôt, mais c'est vraiment quelque chose de concret, de mesurable. Puis je pense que si on veut vraiment réduire les inégalités de santé là, pour les personnes de la diversité sexuelle et de genre, ben il faut s'attaquer aux conditions sociales puis aux institutions qui causent, qui produisent cette discrimination-là. Donc, pas seulement s'attaquer aux conséquences, mais vraiment aux causes même là, de la discrimination.
Et de votre côté, là, avec le centre de recherche, quels sont vos autres projets pour 2026? Avez-vous d'autres recherches en cours?
Oui, ben en ce moment, j'ai commencé mon doctorat sur un sujet similaire, mais pas tout à fait pareil. Donc là, je m'intéresse au stress chez les couples et non pas chez les individus dont un ou les deux partenaires auraient des troubles mentaux graves comme la schizophrénie, la psychose, la dépression majeure. Mais encore une fois, je suis dans des populations là, diverses, LGBTQ et autres. Donc, ce serait intéressant de voir si, au sein d'un couple, là, le fait d'avoir un trouble mental, que ce soit l'un ou l'autre des partenaires, est-ce que ça affecte le stress des deux, puis de quelle manière?
Et vous dites que vous venez de commencer, donc l'étude en ce moment n'est pas encore commencée, c'est ce que je comprends?
Exactement, ça va prendre quelques années.
Oui, c'est bon, ça prend toujours quelques années faire un doctorat, mais il faut commencer quelque part.
Exactement, oui.
Et puis, au niveau des projets du César, est-ce qu'il y a des projets qui sont en cours en 2026?
Bien, c'est ça, ce grand projet STOL sur lequel j'ai fait ma maîtrise est terminé, mais là, on risque de faire une deuxième phase dans laquelle, c'est ça, on veut créer une cohorte, donc faire revenir les mêmes participants une deuxième fois, prendre d'autres mesures, mais en même temps aussi prendre des nouveaux participants. Donc, on va voir comment ça va se dérouler, mais c'est sûr que c'est dans les projets à venir.
Et en quoi le centre, en fait, quelle est la mission du centre? Pourquoi ça a été créé?
Ce laboratoire, en fait, c'est pas un centre de recherche, c'est vraiment le laboratoire de mon directeur, mais c'est vraiment, on est un des premiers labos au monde à s'intéresser spécifiquement à des questions de sexe, de genre, d'orientation sexuelle, mais dans une perspective biologique, là, très neurosciences, qui combine plusieurs approches. Et donc, c'est très novateur.
Donc, ce que je comprends, c'est que toutes vos recherches se pose un peu dans ces eaux-là, là, c'est-à-dire au niveau biologique, au niveau des impacts biologiques pour les personnes qui ont de la diversité de genre ou de sexe.
Exactement. On avait une autre étude il y a quelques années qui SexCog, qui s'appelle, qui s'intéressait vraiment plus aux différences au niveau de la cognition, donc selon les différents sous-groupes. Donc, il essayait de voir si, par exemple, les personnes non-binaires ou transgenres avaient des profils cognitifs différents ou similaires par rapport aux autres groupes. Donc, c'était très intéressant.
Et est-ce que vous avez eu des résultats probables par rapport à ça?
Oui, ben il y en a eu plusieurs, mais je vous dirais que c'est pas l'étude principale sur laquelle j'ai travaillé. Donc, ce serait mieux de parler à mes collègues sur ça, mais on avait eu des résultats Effectivement.
On vous rappelle à ce niveau-là. Et pour vous, en fait, vous m'avez dit que vous étiez donc au doctorat. Donc, j'imagine que dès les prochaines années, vous allez particulièrement vous concentrer sur votre thèse.
Exactement, oui.
Et pour ce qui est du centre, vous avez dit qu'il y avait des projets en cours. Pour les personnes qui seraient intéressées à connaître plus sur le centre d'études sur le sexe, genre l'AOSTI et la résilience, donc César, où est-ce qu'on peut aller sur Internet?
Oui, dans le fond, il y a notre laboratoire s'appelle CésarLab.ca. C'est le nom du site Internet vers le site du labo. Puis vous pouvez trouver toutes les recherches en cours dessus. Il y a comme un petit bouton « Je souhaite participer » si vous êtes intéressé à participer à des recherches. On a également des fiches descriptives là, pour les projets.
Oui, parce que vous cherchez toujours là, des participants, c'est-à-dire des gens qui répondent au profil recherché là, pour faire partie des études, là, pour vous aider à avoir des résultats. Là.
Exactement, oui. Donc, tout ça peut se trouver sur notre site Internet.
Parfait. Les gens qui sont intéressés pourront aller voir là, s'ils pourraient vous aider, là, s'ils répondent à certains profils dont vous avez besoin.
Oui, tout à fait.
Merci d'avoir été avec nous. C'était Nevea Shantova. Vous êtes étudiante au doctorat en psychologie à l'Université de Montréal et chercheuse au Centre d'études sur le sexe, le genre, l'allostasie et la résilience chez César. Merci d'avoir pris un peu de temps pour nous parler de cette étude.
Ah ben merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
Bonne journée.
Bonne journée. Au revoir.
Rejoignons maintenant Amélie Turalo, qui est directrice générale de l'Association québécoise de la déficience intellectuelle. Bonjour, Mme Turalo.
Oui, bonjour, Mme Pellerin.
Comment ça va?
Ça va bien, vous?
Ça va bien, merci. On part avec vous pour un sujet très précis, Mme Turalo, qui est l'allocation offerte aux familles demanderesses d'asile qui a été coupée par le gouvernement du Québec il y a quelques semaines de ça, c'est-à-dire que les personnes qui étaient demandeuses d'asile avec un enfant en situation de handicap avaient droit à une petite allocation mensuelle pour aider à répondre aux besoins d'un enfant qui était en situation de handicap et... On a su dans les dernières semaines que l'allocation a été coupée aux personnes demanderaient l'asile?
Oui, tout à fait. C'est une situation à laquelle la SQDI s'est beaucoup impliquée avec d'autres organismes communautaires, notamment là au sein d'une coalition, parce que c'est vraiment une décision qui dépasse l'entendement. Il y a énormément de répercussions sur ces familles-là, sur le terrain. Donc, concrètement, là, c'est à partir du 1er mars 2026 que à peu près 260 familles qui ont des enfants à besoins particuliers, des familles en demande d'asile, elles ont été informées juste avant les fêtes qu'elles ne recevront plus de suppléments destinés à couvrir les frais qui sont liés au handicap de leur enfant. Ça touche environ 300 enfants, mais je dirais au moins 300 enfants parce que depuis le 15 avril 2025, donc à peu près depuis une année de ça, le ministère de la Santé et des Services sociaux ne prend plus aucune nouvelle demande. Donc ça touche beaucoup plus de familles là, que les 263 familles concernées.
Et si vous êtes, si vous faites partie du dossier, j'imagine que quand on parle d'enfants en situation d'handicap, on parle d'handicap au sens large. Il y a aussi des enfants qui ont des déficiences intellectuelles, qui ont des TDAH, des troubles du spectre de l'autisme et tout ça. Donc, on parle vraiment d'enfants, là, autre que la déficience physique.
Oui, c'est vraiment tout handicap confondu. Donc nous, en fait, tu sais, on rappelle par cette action-là aussi, on est super sensible là, à la réalité des familles là qui voient ces versements-là coupés à partir de ce mois-ci parce que il y a pas de solution de rechange. En fait, tu sais, les dépenses de ces familles-là, c'est pas accessoire, là, c'est vraiment des conditions, tu sais, les enfants ont vraiment des conditions de base, puis ça permettait, là, tu sais, vraiment aux enfants de pouvoir se développer, de participer à la vie collective, d'être inclus aussi dans la société parce que ces enfants-là aussi, c'est ben, les citoyens de demain. Là. Oui. Donc, pour nous, les raisons qu'on nous a évoquées ne tiennent pas la route. Là. Au niveau de la petite économie d'échelle qui va se faire, oui. Ça va coûter beaucoup plus cher de soutenir ces enfants-là devenus adultes s'ils n'ont pas le soutien dès la petite enfance. Donc, oui, le milieu du handicap est impliqué. Autant le milieu qui défend les droits des personnes là, en demande d'asile. Donc, vraiment, on s'est unis, ces deux milieux-là, oui. Justement, pour dénoncer la situation parce qu'il n'y a pas de solution de rechange. T'sais, c'est quand on a besoin de soutien en ergothérapie, en orthophonie. Parfois, c'est pour avoir des payés, couvrir des médicaments spécialisés, des orthèses, des fauteuils roulants, etc. Il y a des parents qui remettent en question le fait d'envoyer leur enfant à l'école. C'est vraiment très, très préoccupant. Parce qu'encore là, il n'y a pas d'autre solution pour ces familles-là. Et même le milieu communautaire n'est pas en mesure de pouvoir offrir ces solutions-là. Donc, on se retrouve devant des familles qui sont déjà, pour la plupart, dans une très, très grande précarité financière à la base. Là. Oui. Quand on est des familles en demande d'asile, on fait face souvent à des situations de plus grande vulnérabilité. Et là, ça ajoute cette coupe-là. Donc, oui, on la dénonce fortement.
Et je pense qu'il faut expliquer ce que sont des demandeurs d'asile, parce que peut-être que pour monsieur, madame, tout le monde, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on connaît. Donc, les personnes demandeuses d'asile, c'est des personnes qui ont quitté leur pays pour des raisons de sécurité. Donc, que ce soit parce que la politique du pays est mise en danger ou que ce soit pour des raisons de violence ou des raisons de discrimination face au handicap ou de discrimination pour d'autres raisons. Donc, ces personnes-là doivent quitter pour leur propre sécurité et arrivent ici et au niveau du droit international, on doit les recevoir ici et on se doit de protéger ces familles-là. Donc, vous le dites bien, là, c'est des familles qui arrivent avec très peu de choses parce qu'ils ont souvent quitté leur domicile à la va-vite là, et arrivent ici, ne peuvent souvent, là, ne peuvent pas travailler étant donné leur statut de demandeur d'asile, donc ils sont en attente d'un statut régulier. Donc, on a des difficultés donc, à travailler, à subvenir aux besoins de base. Et là, par-dessus ça, on a un enfant qui est en situation de handicap qui demande des soins particuliers ou des équipements particuliers. Et on parle d'un montant d'argent qui était presque dérisoire, là, qui donnait quand même assez peu. Je pense que c'était quelque chose comme 200 $ par mois.
Oui, c'est environ 400 $ par mois par enfant. Évidemment, je pense que tout le monde va être d'accord avec nous qu'un enfant, ça demeure un enfant.
Oui.
Puis un enfant devrait bénéficier des mêmes droits de protection que tous les autres enfants, des mêmes droits liés à leur développement et à leur dignité. Et aucune famille a choisi de vivre ces situations-là. Puis ce qui est quand même surprenant, c'est que au Québec, on s'est doté d'un cadre juridique clair, notamment par la Charte des droits et libertés de la personne. Il y a aussi la Convention relative aux droits de l'enfant. Donc, retirer ce supplément-là à des enfants en situation de handicap, pour nous, c'est de creuser encore plus les inégalités
et
pénaliser vraiment des enfants qui sont déjà vulnérables. Aussi, il faut savoir qu'il y a beaucoup de coupes, de compressions dans les services offerts aux personnes en situation de handicap. Le 30 janvier passé, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a dit dans sa déclaration qu'il demande à chaque fois qu'il y a des coupes ou des compressions dans notre milieu, c'est qu'il y a une analyse rigoureuse qui est faite pour justifier cette coupe-là. Et là, évidemment, ce qu'on dénonce, c'est qu'il n'y a eu aucune analyse là, réellement des impacts. Ce qu'on nous a répondu, c'est que en fait, c'est comme une erreur administrative, qu'on n'aurait jamais dû payer ces montants-là.
Ah, bon.
Ça fait depuis les années 90 là, que le ministère de la Santé et des Services sociaux finance ce soutien-là aux familles et que là, on est seulement en train de corriger une erreur administrative. Mais pour nous, c'est vraiment signe là, qu'on délaisse complètement des familles qu'on a choisi d'accueillir, qui sont déjà dans une grande précarité. Donc, c'est vraiment, tu sais, un signe d'abandon. Là. Donc, c'est très difficile d'envisager de bâtir une société inclusive quand on délaisse, dans le fond, ces familles-là, parce que, évidemment, on veut que tous les enfants puissent être inclus dans la société et puis bénéficier des mêmes droits que les autres enfants. Là. Donc, c'est pour ça vraiment que nous, on s'acharne à défendre ce dossier-là parce que c'est toute coupe dans le milieu du handicap sans analyse, c'est vraiment... ça a vraiment des répercussions dans la vie là, des personnes concernées.
Et les principales sources de revenus pour les demandeurs d'asile, c'est lesquelles? C'est l'aide de dernier recours, là, très souvent.
Oui, tout à fait. Puis ils n'ont pas accès non plus, je tiens à le rappeler, là, aux mêmes allocations que les résidents permanents, puis les citoyens canadiens. Donc, c'est vraiment de l'aide de dernier recours. Il y a un programme fédéral là, pour subvenir aux frais de base là, au niveau de la santé, mais ça ne couvre pas ces besoins-là. Si on parlait d'histoires vraiment dramatiques, par exemple, il y a des familles qui sont obligées d'aller travailler quand même, des mamans qui vont travailler malgré que leur enfant est sur le bloc opératoire, ils ne peuvent pas rester à leur côté parce qu'ils n'ont pas ce supplément-là pour être aux côtés de leur enfant. Les banques alimentaires, souvent, ne donnent pas les aliments qui sont appropriés pour des diètes particulières. C'est tout ça, c'est plein d'exemples qui font en sorte que cette allocation-là, c'est pas du luxe, c'est vraiment, puis je le répète, c'est pour permettre de couvrir au minimum des besoins là pour permettre aux enfants de se développer. Donc, je ne sais pas comment on a pu imaginer que d'avoir un fauteuil roulant pour une personne à mobilité réduite, c'était comme accessoire.
Du gros luxe, ça. Tu sais, vous avez dit aussi, c'est quelque chose qui m'a marqué, que c'était une erreur, en fait, d'avoir donné cette allocation-là, alors qu'on parle d'une allocation de base pour aider des enfants qui sont en situation de handicap. Donc, c'est quand même particulier de répondre « oui, mais ça a toujours été une erreur ». On a fait l'erreur pendant 30 ans.
On corrige une erreur par une autre erreur qui est probablement encore plus grave. Là, donc,
qui est clairement plus grave.
Oui, puisque ce qui a été mentionné et rapporté par Le Devoir, là, qui a mis cette histoire-là au grand jour, là, juste avant les fêtes, c'est que pour le gouvernement, l'argument qu'on a donné à la journaliste, c'est que c'était pour une question d'équité, puis une question de gestion rigoureuse. Mais je pense que c'est très mal comprendre le concept d'équité déjà, de penser que de faire une coupe pour que tout le monde puisse bénéficier des mêmes soutiens quand il y en a qui ont des besoins particulier. En tout cas, je pense qu'il faudrait rappeler au gouvernement c'est quoi le concept d'équité.
Oui, bien, c'est ce que...
C'est certainement pas ça.
C'est ce que j'allais dire. Hein. Il faudrait que le gouvernement m'explique ce qu'est l'équité, parce que de la façon dont je le comprends, puis vous me direz que je suis pas une spécialiste, mais la façon dont je le comprends, l'équité, c'est de donner à tous les outils dont ils ont besoin pour être pleinement capable de participer à la vie sociale. Donc, un fauteuil roulant, de la nourriture qui est adaptée pour ces gens-là, des orthèses, c'est de l'équité, finalement.
Ben oui, je pense que la plupart des gens comprennent c'est quoi, mais des fois, il faut le rappeler.
Oui, ben écoutez, encore une fois, il faudrait peut-être que le gouvernement m'explique le concept d'équité. On regarde peut-être pas dans le même dictionnaire, mais effectivement, il y a quelque chose ici qui est incompréhensible. Mais ce que j'en comprends, c'est qu'on essaie encore une fois de faire des économies de bout de chandelle.
Même quand on pense à... Je voulais pas vous interrompre, désolé, non, mais oui. Même quand on pense à l'argument de la gestion rigoureuse, elle est où la gestion rigoureuse là-dedans? C'est sûr que ça va coûter encore plus cher à l'État éventuellement. Là,
oui, clairement.
Si on y va en termes de discours comptable, là, qui parce qu'on va toujours sur ces arguments-là, mais en même temps, c'est complètement irrationnel. Là.
Donc,
c'est irrationnel, mais c'est irrationnel aussi d'être devant autant de souffrances humaines. Oui. T'sais, le milieu communautaire, ceux qui se sont prononcés, dénoncent vraiment vivement parce que c'est vraiment pas facile pour ces familles-là, puis c'est pas facile aussi pour les travailleurs qui côtoient ces familles-là d'être devant autant de détresse, puis de voir que le Québec met en place des politiques d'austérité dans un contexte beaucoup plus à saveur électorale
oui.
que pour réellement protéger les personnes concernées. C'est vraiment très malheureux. Puis, il y a la Commission des droits de la personne qui a aussi profité de l'occasion pour dénoncer le fait que il y a des compressions massives dans le secteur du handicap et qu'il y a un grand manquement en termes d'analyse là, lors des prises de décision, en fait.
Ce que je comprends, en fait, c'est qu'on s'attaque encore une fois aux personnes les plus vulnérables qui ont le moins les moyens de se défendre et qui ont le moins les moyens, vous l'avez dit, d'avoir une solution de rechange. Donc, merci d'avoir été avec nous et merci de votre travail au niveau de ce dossier-là, qui est un dossier extrêmement complexe, et de défendre, comme je l'ai dit, des personnes qui sont très, très vulnérables. Vous êtes donc la directrice générale de l'Association de la déficience intellectuelle du Québec. Donc, merci d'avoir été avec nous. Bonne journée.
Merci, Madame Pellerin. Bonne journée à vous aussi.